RCF.
Père Gabriel, on parle de Noël en christianisme en disant qu'il s'agit d'un mystère. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère ?
C'est une réalité que je ne peux pas atteindre par l'entendement et par la raison. C'est une réalité qui dépasse mon entendement et qui demanderait l'adhésion de ma foi et de ma confiance aussi.
Donc ça n'exclut personne, le mystère ?
Non, pas du tout.
C'est pas réservé à une bande d'initiés ?
Surtout pas. C'est réservé à une bande qui accepte de démaîtrise, une forme de démaîtrise vis-à-vis des certitudes. Parce que vous savez, on aime bien avoir des certitudes, on aime bien maîtriser tout. Et le mystère m'invite à une démaîtrise. Et chaque personne peut opérer cette démaîtrise pour passer à la foi. La foi, c'est je me jette dans les bras de Dieu avec cette démaîtrise, en acceptant de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout connaître, de ne pas comprendre tout de suite, et de cheminer avec ce Dieu qui se révélera petit à petit avec moi.
Même pour quelqu'un comme vous, qui êtes un universitaire, qui enseignait, qui avait un cerveau quand même plutôt bien fait.
Je veux dire, surtout, vous savez, Socrate dit « tout ce que je sais, ce que je ne sais rien ». Et le propre de la science, surtout des sciences humaines, moi je suis prof de lettres, c'est que plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Et que, entre guillemets, la science, c'est un puits sans fond. Et l'universitaire, dès qu'il croit qu'il sait tout, il meurt. Il se tire une balle dans le pied. L'universitaire ne sait pas. Et c'est ce « ne sait pas » qui le pousse à creuser davantage, à aller davantage et à creuser pour élaborer de nouvelles réponses qui seraient elles-mêmes de nouvelles questions et ainsi de suite. C'est ce qui fait que la pensée avance.
Et il en est de même pour la foi ?
J'espère, bien sûr.
Donc ça veut dire que quand on parle du mystère de Noël, pour vous, il ne s'agit pas de poser votre cerveau à côté de vous ou de renoncer complètement à l'intelligence ?
Surtout pas.
Alors ça relève de quoi exactement ?
Surtout pas. C'est-à-dire, c'est une quête de sens. Vous savez, dans l'évangile de Luc, dans Luc 2, à un moment, on dit que Marie retenait tout ça dans son cœur. Elle méditait ça dans son cœur, si ma mémoire est bonne. Le mot grec, c'est symbolein. C'est que Marie cherchait à trouver un sens, à faire des liens entre ce qui lui a été dit parlant, ce que les bergers viennent lui annoncer, ce qui se passe devant elle. Elle cherche à tisser des liens entre tout ça, à établir des liens pour en donner un sens. Et c'est ça un peu le cheminement de la foi. Qu'est-ce qui donne sens à mon vécu ? Qu'est-ce qui donne sens à ce que je vis ? Comment faire des liens entre les rencontres que j'ai faites, mon travail, ma vie de tous les jours ? Comment établir des liens, faire une sorte d'unité qui puisse donner sens.
C'est cohérence.
Le symbolène, une cohérence et plus un sens. C'est le symbolène de Marie. La cohérence, mais dans le but d'un sens. Et c'est le fameux symbolène de Marie. Mmh. Et on se rend compte dans l'évangile de Luc que Marie, deux fois, à deux reprises, s'est dit, après aussi la pièce de temple, que Marie médite, elle essaye de comprendre, de donner un sens.
Alors, le mystère de Noël, c'est que Dieu, qui avait scellé une alliance avec l'homme, se donne au point...
Et la femme,
l'homme
avec l'humanité.
Avec un grand H. Oui.
Avec l'humanité.
Vous faites bien de me reprendre. Avec l'humanité, aime l'homme au point qu'il se donne.
Tout à fait.
Il se donne, c'est-à-dire il prend chair, il vient parmi nous.
Tout à fait.
Comment est-ce qu'on peut comprendre, essayer de comprendre cette réalité ?
C'est-à-dire... Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de la vivre dans sa chair. Seuls les gens qui aiment vraiment, je pense par exemple aux parents, je pense au couple, même dans l'amitié, c'est en aimant vraiment l'autre qu'on peut comprendre cela. À mon avis, ça dépasse l'entendement purement rationnel et raisonnable. Ça demande l'adhésion de tout mon être, du cœur, mais le cœur c'est dans le sens biblique, c'est tout de tout mon être. Je ne peux me donner à l'autre que par amour. Et quand j'aime l'autre, je désire non seulement lui donner, partager avec lui ce que j'ai pu dire, mais me partager avec lui. Partager qu'est-ce qu'il y a de plus cher que ma vie à partager avec l'autre. C'est en se situant dans la logique de l'amour, dans la dynamique, pardon, de l'amour d'un Dieu, c'est comme ça que je peux entendre, dans le sens entendir espagnol, je peux sentir cela.
Pourquoi faut-il que Dieu prenne chair pour nous le manifester, son amour ? Est-ce qu'à travers l'alliance, c'était pas déjà fait finalement ? Ou est-ce qu'il n'aurait pas pu se manifester autrement tout en restant dans une forme d'alliance.
Il y a des paroles dans la liturgie, quand on fait les offrandes, on dit « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, nous sommes unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Je pense que Dieu se fait chair pour faire de nous des dieux. Et ce n'est pas une hérésie que je dis, c'est la liturgie qui dit « Nous sommes unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » C'est-à-dire ce Dieu qui prend la figure de l'homme pour remettre l'homme là où il était, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sa juste place, c'est ça, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc c'est ce Dieu qui devient homme pour que l'homme redevienne à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc c'est Dieu qui va cheminer le chemin de l'homme, hors le péché bien entendu, pour le sortir de cette hommité qui le garde dans son égoïsme, dans son péché, pour le rendre à sa juste place, qui est d'être à l'image de Dieu, d'être Dieu lui-même, fils de Dieu, ou si vous voulez, d'être co-créateur, comme dit l'Ancien Testament.
C'est Dieu qui abolit la distance entre l'homme et lui.
Absolument, absolument, très juste. Gloire à Dieu, on dit gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre aux hommes qui viennent. Le « et », le « et », c'est plus qu'une conjonction de coordination, c'est un lien entre les deux. C'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est la paix sur la terre. Et ces anges, entre guillemets, dans l'évangile de Luc, symbolisent, c'est le Dieu qui vient à l'homme. C'est Dieu qui vient à l'homme à travers cette... Et donc, la gloire de Dieu, c'est, comme dit Irénée, l'homme debout, je veux dire l'homme en paix, l'homme qui construit la paix.
Donc, un Dieu qui se fait homme, qui prend chair et qui vient habiter parmi nous.
Absolument. Qui devient un des nôtres, tout à fait. Qui devient un des nôtres.
Quand Dieu s'incarne, est-ce qu'il fait semblant?
Pas du tout. Sinon, on est dans... Il y a un terme, j'ai oublié, un terme théologique, j'ai oublié justement. Surtout pas, il est homme, notre foi nous dit, il est vrai, Dieu est vrai, homme, justement. C'est ça la différence avec les, c'est moi que j'oublie maintenant le terme, les monophysites. Et pour les monophysites, justement, c'est sa nature divine qui prend le dessus, et puis il est quelque part, c'est un peu plus compliqué que ça, il dit quelque part il est homme. Non, l'Église dit il est vrai Dieu et vrai homme, et moi je ne peux pas croire en un Dieu qui n'est pas un vrai homme, qui a vécu les combats de l'homme, qui a vécu les déchirements de l'homme, les désirs de l'homme aussi, hormis le péché bien entendu.
Alors,
hormis l'égoïsme, quand je dis hormis le péché, c'est hormis l'égoïsme. Qu'est-ce que le péché sinon cet égoïsme qui me ferme sur moi-même?
Qui me coupe des autres.
Et Jésus a vécu tout ça, sauf ça. En là, il n'était pas homme. Cette coupure à l'autre, justement, c'est l'anti-coupure à l'autre qui se manifeste sur la croix. Et c'est ça la croix. C'est-à-dire, je me donne à vous jusqu'à cette croix. Et cette croix, justement, c'est la cassure de cette fermeture à l'autre.
Certains avancent l'hypothèse que Jésus de Nazareth pourrait être un homme, comme vous et moi,
bien
si j'ose
sûr,
dire.
Il était un homme, comme vous et moi.
Qui
il
aurait... était un homme. Parfaitement vécu sa vocation d'homme,
bien sûr.
Ce qui aurait fait de lui un dieu.
Bien sûr. Alors, ça, il faut plus poser soin à des théologiens. Moi, je ne suis pas vraiment théologien, spécialiste de la christologie. Il était les deux. Mais à partir de l'évangile, on dit qu'il était parfaitement homme et cette prise de conscience de sa divinité s'opérait au fur et à mesure. Alors, certains théologiens disent à l'époque du temple. Là, il dit, je suis aux affaires de mon père. Quand Marie l'interpelle, il dit, mais écoute, ça fait 3 jours qu'on te cherche. Écoutez, mais pourquoi vous me cherchez? Je suis aux affaires de mon père. Donc, on pense qu'il y a une conscience progressive qui se fait, que ce vrai homme, il est également aux affaires de son père. Il est là pour réaliser cette mission de ce père, de se donner. Donc, moi, je pense que les deux vont de pair, à mon sens. Mais bien sûr, cette conscience de Dieu, elle vient au fur et à mesure, cet envoi en mission. Et puis après, elle se complète, on le voit dans l'évangile. Moi, je pense que c'est les deux qui vont de pair. On ne peut pas dissocier le vrai Dieu du vrai homme, je pense.
Dieu s'incarne par amour, pour manifester son amour. Mais au fond, est-ce qu'il espère quelque chose de cette incarnation, de cette venue parmi l'homme.
Bien
Est-ce
sûr.
Qu'il attend quelque chose?
Bien sûr, il attend l'adhésion libre et gratuite de l'homme. Je veux dire libre de l'homme. Il ne va pas s'imposer. Lui, qu'est-ce qu'il attend? Que l'homme adhère à son projet de salut. Et que l'homme redevienne à cette place qui est sainte d'être à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et dans la Bible, surtout dans les chapitres de 15 de Luc, c'est les chapitres du pardon, de la miséricorde. Il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un juste qui se repentit pour le 99 juste. Pour un pécheur, pardon, qui se repentit qu'au 99 du juste. Donc il y a cette attente de l'homme qui revienne à la vie. Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit, je pense dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc il est là, elle est là l'attente de Dieu, ce choix de la vie, mais d'une vie amoureuse, d'une vie tournée vers l'autre et d'une vie où l'homme s'accomplit humainement et trouve sens à sa vie. Elle est là l'attente de Dieu, d'un homme heureux, mais quel bonheur. C'est là où toute l'action, de quel bonheur il s'agit. Et surtout de ce bonheur d'une vie accomplie, sensée, qui a du sens et qui est tournée vers les autres en fraternité, en solidarité, en partage.
Ça, c'est la vocation des hommes?
Ça, c'est la vocation des hommes et des femmes, bien sûr. Bien sûr. Et c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? C'est une communauté humaine qui est ancrée dans l'amour du Christ, qui se reconnaît dans l'amour du Christ pour qu'ensemble, on tisse des liens d'humanité pour faire ensemble l'Ecclésia, l'Église.
À demain.
À demain.
Merci.